2 avril, la rencontre spirituelle. C'est la fête d'un très grand saint, malheureusement pas tellement connu. C'est un des saints les plus extraordinaires de toute l'histoire de l'Église. C'est Saint François de Paule, un Italien. Paule, c'est une petite ville près de Naples, dans le royaume de Naples. Et dans cette vie, ce qui semble incroyable est pourtant bien vrai, d'après les témoignages qu'on a. Cet homme, François de Paule, est mort quand même il n'y a pas trop longtemps, 1508. Et c'est une vie où on nous montre que Dieu est vraiment tout-puissant pour ses plus grands saints. Sa naissance est de l'an 416, s'il faut en croire une ancienne tradition. François de Paule est donc né à Paule, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Près de Naples, sa mère, Françoise, son père plutôt, Jacques Bartolio, et sa mère Eugène de Fuscaldo, étaient des parents vraiment remarquables. Il va illustrer l'Église, François de Paule, par l'établissement d'un ordre religieux. Oui, il va fonder un ordre religieux particulièrement sévère, qu'on appelle l'ordre des minimes, ou si vous préférez, les ermites de Saint-François. Ses parents, donc, ont vécu plusieurs années dans le mariage sans avoir d'enfants. Ils étaient vraiment désespérés, et là, ils ont vraiment prié Dieu très fortement par l'intercession justement de Saint François d'Assise. Et ils ont fait vœu de donner à leur enfant le nom de François, François d'Assise. S'ils étaient exaucés, ils l'ont été. Alors, au moment de la naissance, dit-on, de cet enfant, plusieurs témoins ont aperçu au-dessus de la maison comme des petites lampes, des petites flammes qui sont apparues, et comme si c'était le signe qu'une nouvelle lumière se levait sur la terre. Il y a des phénomènes de ce genre, dit-on, qui se sont produits en Belgique dans les années 30, au moment de certaines apparitions, dit-on, de la Vierge de Beaurain, puis de Banneux. Alors la maison natale, donc, va être plus tard changé en chapelle à cause de ce phénomène, mais aussi à cause de la grandeur de ce saint. C'est pas un saint vraiment à imiter, mais c'est un saint dont il est intéressant de connaître la vie. Son père a fait baptiser son enfant très rapidement. Il avait hâte de le nommer François. D'ailleurs, il était encore au berceau, cet enfant, quand une tumeur très importante a menacé de le rendre borgne. C'est-à-dire de perdre un œil, n'est-ce pas? Alors, les parents ont demandé à Dieu sa guérison. Et ils ont même promis, chose étrange, et ça se faisait jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, hein, de revêtir cet enfant du petit habit des franciscains, là, de Saint François d'Assise, dans un couvent franciscain. Vous savez qu'à Saint-Benoît-du-Lac, il y avait de petits bénédictins comme ça dans les années 40. Bon, il y a 50 ans, des petits bonshommes, là, qui avaient quoi, 13, 14, 15, 16 ans, qui étaient habillés comme des petits bénédictins, on appelait ça des oblats. C'est des enfants de familles en difficulté, et qui venaient donc poursuivre leurs études dans un cadre qui leur permettait d'étudier vraiment et d'être plus disciplinés, d'apprendre une certaine discipline qu'ils n'avaient jamais apprise, étant donné peut-être que leur père était un grand alcoolique, la mère étant gravement malade, ou ils étaient abusés à domicile, etc. Ces pauvres enfants, dans certains cas, en tous les cas, trouvaient là une espèce de refuge. Et en portant ce costume, bien, peut-être que ça les aidait. C'était encore une coutume qui datait du Moyen-Âge, qui est disparue avec le Concile. Donc, le petit a revêtu l'habit franciscain très jeune. Et François a été aussitôt délivré de son mal. Il lui en est resté seulement une petite cicatrice, comme un souvenir de cette faveur miraculeuse dont il avait été l'objet. Et peu d'années après, mais son père et sa mère, là, Jacques Bartolio Et sa mère, qui s'appelait ce, ce curieux, curieux prénom, Vienne de Fuscaldo. Bien, ils ont eu une fille qu'ils ont nommée Brigide. Et après quoi, ils ont renoncé à leur mariage. Encore un autre couple qui vit dans la chasteté la plus totale et font vœu même de continence. C'est très étrange, j'avoue, aujourd'hui. Mais il faut se situer dans ce temps. Mais d'ailleurs, au XXe siècle, des couples, je vous l'ai déjà dit encore il y a quelques jours, Jacques Maritain et sa femme ont vécu dans la continence, et d'autres couples. Mais c'est très, très rare. Alors plus tard, le père de François de Paule, il va entrer lui-même, d'ailleurs, dans l'ordre des minimes que va être fondé son fils. On les appelait comme ça, les minimes, c'est-à-dire les petits. Puis il va y terminer ses jours comme un moine exemplaire. Je vous cite en exemple quelqu'un que dont je vous ai déjà parlé, le fameux marquis de Vogüé en France, qui ayant marié sa fille, n'est-ce pas, la dernière de tous ses enfants, est entré comme bénédictin à la Pierre-Quévire en France, l'abbaye Sainte-Marie de la Pierre-Quévire, et sa femme est entrée chez les bénédictines, la marquise de Vogüé, c'est une des plus grandes familles de France. Et alors, l'éducation de François a été profondément chrétienne, c'est évident, hein. Son enfance s'est écoulée très simplement, et tout jeune encore, bien, il était porté à imiter un peu certains saints dont il lisait la vie, alors il faisait un peu pénitence. Et puis, il fallait le contrôler un peu, hein, mais il se contrôlait bien, dit-on. Il semble bien, d'ailleurs, qu'il a commencé de bonne heure à faire des mortifications de carême pendant toute l'année. Et pas simplement pendant le carême, n'est-ce pas? Alors, comme ses parents ne pouvaient l'envoyer dans des écoles, ils lui ont appris à connaître Dieu et à pratiquer la vertu, comme ça se fait de plus en plus dans de nos jours, particulièrement, n'est-ce pas, aux États-Unis, où les gens enseignent à domicile à leurs enfants, forment des espèces de groupes où on enseigne. C'est des chrétiens un peu de droite, traditionnalistes, qui ne veulent pas envoyer leurs enfants dans les écoles où, prétendent-ils, ils risquent de se pervertir de façon irrémédiable avec la drogue, le sexe, etc. Alors, il y a deux traits de cette époque qui font ressortir la piété de François de Paule. Un jour, c'est assez étonnant, il récitait le chapelet à genoux. Il avait la tête nue, et sa mère est venue lui dire, « François, vous devriez vous couvrir quand vous priez Dieu si longtemps. » Alors, il lui dit, « Maman, si je parlais à la reine, je suis sûr que vous me commanderiez de rester tête nue. » Quand on s'adresse à la reine du ciel, ce n'est pas trop de lui parler à genoux, puis la tête nue. Il y avait la tête nue, probablement, qui faisait froid ou faisait soleil, et sa mère préférait qu'il se couvre. Une autre fois, elle l'exhortait à aller se divertir avec les autres enfants de son âge. Alors, il dit, « Maman, j'irai si vous le voulez. Mais pour moi, tout mon plaisir est de m'entretenir avec Dieu et de le prier. » Il avait un sens de la présence de Dieu assez jeune, hein? Un grand sens de la présence de Dieu. Et vous savez, il avait aussi le sens, comme je viens de vous le raconter dans l'autre petite histoire, qu'il s'adressait vraiment à la Reine du Ciel et que c'était important. Souvent, je me demande si nous nous rendons compte, quand nous sommes à l'Église, que nous nous adressons au Roi de tout l'univers, à Dieu, notre Père, qui nous aime d'un tel amour et qui est digne de tout respect. Mais souvent, on a des attitudes franchement distraites, peu respectueuses dans la façon de nous tenir debout, de nous asseoir. Il y a quelque chose qui manque dans l'attitude de notre corps. Il faudrait peut-être veiller à ça. En tous les cas, quand François Paul a eu 13 ans, un religieux qui était revêtu de l'habit des franciscains, des frères mineurs, lui est apparu une nuit durant son sommeil. Il a averti que le temps était venu d'accomplir le vœu de ses parents. Alors François dès le lendemain, a transmis ce message à ses parents. Et puis, ils ont compris qui c'était. C'était sans doute Saint-François, alors ils l'ont mené au couvent des franciscains de la ville de Saint-Marc, distante à peu près d'une journée de celle de Paul, où ils habitaient. Alors, il a suivi la règle dès le premier jour. Et puis, il a été heureux de porter une espèce de tunique, là, une soutane, si vous voulez, de tissus extrêmement grossiers, comme les franciscains le portaient à cette époque. Et puis, il a pratiqué l'abstinence, le jeûne perpétuel. On lui a confié divers emplois, là. Il est devenu aide du sacristain, réfectorier, infirmier. Mais tous ces emplois, là, il s'est empressé de les remplir, bien que très jeune, à tel point, avec une telle ferveur, que les moines avaient l'impression qu'ils étaient plusieurs, François de Paul, pour faire tout ce qu'ils faisaient. Un jour, d'ailleurs, le sacristain l'a envoyé chercher du feu pour l'encensoir. Et il a continué ça toute sa vie. C'est absolument phénoménal. Vous ne le croirez peut-être pas, mais il y a des témoins très importants, y compris le pape. Un jour, le sacristain l'a envoyé donc chercher du feu pour l'encensoir, et sans rien lui donner pour l'apporter. Vous vous imaginez ce qui est arrivé, hein? Alors, comme il était soucieux d'obéir, une obéissance, alors sans hésiter, notre jeune François de Paul a pris des charbons ardents, il les a mis dans le pan de sa tunique, il les a portés ainsi à l'église, parce qu'il fallait aller allumer les charbons en dehors de l'église, n'est-ce pas, on fait ça en général à la sacristie, ceux qui ont été comme moi turiféraires, c'est-à-dire qui sont occupés du feu puis de l'encens, là, dans des messes, on sait ce que c'est. Hein? Alors il les a portés à l'église sans endommager son habit. Une autre fois, le cuisinier lui laisse le soin de veiller à la cuisson des aliments. Alors avant de commencer, Saint François de Paul se met à prier, puis il tombe dans une espèce d'extase qui dure jusqu'à l'heure du dîner. Alors là, les religieux se rassemblent au réfectoire. Mais il n'y a rien qui vient de la cuisine. Vous savez, c'est des chariots, là. On transporte sur le chariot la nourriture. Alors, on accourt à la cuisine. On a un peu de difficulté à tirer le jeune François de Paul de cet état de contemplation, puis on lui adresse quelques reproches. Ben, on le trouve un peu négligent. Et lui, sans s'émouvoir, s'approche de la cheminée sans feu. Il n'y a pas de feu. Il invoque le secours de Dieu. Un signe de croix. Et c'est ce qu'on raconte de façon sérieuse, et le repas a été cuit en un instant. Il est servi comme à l'ordinaire. Ces petits miracles, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'histoire de l'Église, mais il y en a encore au XXe siècle. Qu'on lise la vie de Marthe Robin, qui est décédée au début des années 80. Qu'on lise la vie de Charbel Maclouf, dont je vous ai parlé, ce grand saint maronite. Ces saints du XXe et XIXe siècle, avec des tas de témoins, là. C'est tout de même phénoménal. On se croirait au Moyen-Âge, dit-on, mais pourtant, c'est encore comme des clins d'œil de Dieu. Alors, les religieux de Saint-Marc veulent bien garder François dans leur ordre, mais il semble bien que Dieu a d'autres vues sur cet enfant. Alors, lorsque l'année se termine, François rentre dans sa famille, ses parents l'accompagnent dans toutes sortes de pèlerinages à Rome. Rome, c'est pas tellement loin de Naples et de Paul. Alors, ils ont prié tous les trois sur les tombeaux des apôtres, comme Saint-Pierre, Saint-Paul, et ils ont prié aux ermitages les plus célèbres de toute la région, puis sont allés jusqu'à Assise, et probablement aussi au Mont Cassin. Oui, au Mont Cassin, grand monastère bénédictin, comme vous savez, et avant de rentrer à Paul, le petit François prie ses parents, il leur demande de lui accorder un petit coin dans leur terre où il pourrait se retirer pour vivre seul. Et ses parents y consentent, alors ils lui apportent la nourriture de chaque jour. Mais il demeure pas longtemps dans cet endroit. Il y a déjà quelque chose d'un peu d'ermite chez lui. Alors il y reçoit trop de visites. Des gens viennent le trouver. Et puis, ça le distrait. Et il prétend que ça nuit à son avancement spirituel, toutes ces distractions. Il est encore jeune, il veut vraiment s'affirmer dans la foi. Alors, un jour qu'il se promène tout seul, et sans autre guide que le bon Dieu, là. Il gravit les rochers escarpés qui s'élèvent au-dessus de la mer, puis là, il trouve une caverne qui est creusée dans le roc, puis il s'y retire. Vous savez, on avait déjà interviewé à Rencontre à la télévision un homme très très riche de Pologne, brillant, intelligent, qui avait fait des affaires, qui s'est retiré comme ça dans une grotte. Oui, pendant 5 ans et demi. C'est au 20e siècle. Ça se fait encore de nos jours. Il y a 500 ermites à peu près en France, il y en a plusieurs ici au Québec. Hein. Alors, dans cette grotte, il reçoit, prétend-il, la visite des anges, et pourquoi pas. Comme beaucoup d'autres solitaires, il a à soutenir, évidemment, des luttes contre lui-même, contre le démon. Alors, cet ermite, François de Paule, passe ses jours à combattre, à se vaincre. Et puis, il mange quelques herbes cueillies dans la montagne, c'est sa nourriture. Il y a l'eau d'un torrent aussi pour boire et se désaltérer, se laver. Et puis, il prie constamment. Et un jour, des chiens qui sont à la poursuite d'un chevreuil s'arrêtent à l'entrée de sa caverne. Alors, les chasseurs qui surviennent sont frappés d'étonnement à la vue de cet étrange ermite. Alors, ils annoncent ce qu'ils ont vu. Et alors, c'est plein de gens qui accourent à la grotte du solitaire, et le pauvre homme a bien de la difficulté à vivre seul, hein, parce que des hommes viennent chercher conseil, des consolations auprès de lui. Et alors, un miracle éclatant contribue surtout à faire connaître la sainteté de François de Paule. C'est le royaume de Naples qui est ravagé par la peste, en 1456, la fameuse peste. Hein. Alors, notre ermite remet à quelqu'un son petit manteau, qui est jeté dans l'eau d'une rivière, et tous ceux qui boivent de cette eau se trouvent guéris ou préservés du fléau, c'est ce qu'on raconte. Ça touche à la légende. Hein. Mais l'affluence s'accroît tellement à l'ermitage, à des personnes qui demandent à vivre avec lui dans la solitude, alors ce désert qui était inaccessible se couvre de cabanes où des hommes s'installent et se font appeler ermites de Jésus et de Marie. Ils viennent combattre, disent-ils, les puissances de ce monde décadent. Et son père, Jacques Bartotille, eh bien, qui est devenu veuf, se joint, comme je vous avais dit, à cette communauté naissante. Il y passe le reste de ses jours comme simple frère. Le nombre des disciples augmente toujours. Alors François de Paule obtient de l'archevêque de Cosenza la permission de construire un monastère. Il quitte sa retraite, il revient à Paule, commence par la construction d'une église sur une montagne près de la ville. Et les travaux sont déjà avancés lorsque François de Paule a une vision qui paraît le troubler un instant dans ses projets. Alors là, il aperçoit un homme revêtu de l'habit des frères mineurs, qui lui apparaît là, puis il lui dit sur un ton de reproche, il lui dit « La maison que vous élevez à Dieu, mon frère, est trop petite ». Démolissez ça. Démolissez ce qui est commencé. Mais construisez sur un plan plus vaste. Là, il fallait vraiment y croire parce que c'était les dimensions étaient assez grandes. Il dit, je suis trop pauvre pour entreprendre un pareil travail. Et l'apparition lui réplique, le Tout-Puissant ne vous délaissera pas. Je crois que c'est la parole fondamentale de toute la vie de François de Paule. Hein. Le Tout-Puissant ne vous délaissera pas. Alors François croit voir dans cette réponse la manifestation de la volonté de Dieu. Alors il fait recommencer les constructions sur le plan qui lui avait été indiqué. Et sa foi et son obéissance reçoivent presque aussitôt leur récompense. Et dès le lendemain, un gentilhomme de Cosenza, Jacques de Tarsia, baron de Beaumont, remet à François de Paule une somme considérable, et d'autres dons vont suivre. Alors des seigneurs et des dames se mêlent aux ouvriers. François déploie une activité infatigable pour le transport des matériaux. Là, il y a des miracles authentiques qui sont accomplis durant l'érection du monastère. Une source d'eau abondante jaillit sous le bâton de François. Et puis des pains, encore une fois, n'est-ce pas, se multiplient pour la nourriture des ouvriers. Il y a même un bloc de marbre qui est soulevé sans peine. On dit aussi qu'une roche énorme avait été arrêtée dans sa chute. Alors, outre ces miracles qui regardent principalement la construction du couvent de Paule, il y en a un grand nombre d'autres. accompli par François, là, pour la guérison, puis le soulagement des hommes et des femmes. Il y a la guérison du baron de Beaumont lui-même, qui est une des plus signalées par l'histoire de cette époque. Hein. Il avait un horrible abcès à la cuisse. Alors ce baron, très puissant et très connu, voit ses chairs se décomposent. Hein. Un peu comme cette espèce de maladie là qui mange la chair. Hein. Et puis il souffrait des douleurs intolérables. Alors François de Paule, après avoir prié, fait le signe de la croix sur la plaie. Il renvoie chez lui le malade en pleine santé. Ça ressemble au miracle de Lourdes comme aujourd'hui. Il y a aussi des résurrections de morts, dit-on. L'une des plus célèbres, c'est celle du propre neveu de François, Nicolas d'Alesso. Ce jeune homme, qui avait souvent manifesté le désir d'être religieux dans l'ordre de son oncle, mais sa mère lui refusait la permission, elle trouvait ça trop sévère. Alors il tombe malade, puis il meurt. Alors son corps est porté à l'église construite par François de Paule, et on procède aux funérailles. Au moment où l'on se dispose à descendre le corps dans la fosse, car on enterrait très rapidement à l'époque, s'il n'y avait pas, on n'attendait pas 3-4 jours, bien, François est intervenu, il a fait porter le corps dans sa chambre, après beaucoup de prières et de larmes, il lui a rendu la vie. Alors la mère, qui ignorait le miracle, est venue le lendemain pour pleurer la mort de son fils. Mais François l'a abordé, puis il lui dit, eh bien, ma tante, êtes-vous résignée à la volonté de Dieu? Contentez-vous de ce que votre enfant soit religieux. Alors elle se dit, j'aurais dû consentir plus tôt, il serait vivant. Et j'aurai la consolation de le voir, maintenant il est trop tard. Je ne le verrai ni séculier ni religieux. Ni séculier, c'est les prêtres de paroisse. Alors Saint François de Paule lui dit, c'est assez, que vous y consentiez. Puis il monte à sa chambre, donne au jeune homme l'habit de l'ordre de Saint François, et l'amène à sa mère, et celle-ci ne peut que louanger Dieu, qui a été si miséricordieux à l'égard de son fils. Et le jeune homme bien va vivre ensuite très religieusement en Italie, et même en France, sous la direction de son oncle, parce que François de Paule va aller vivre durant 25 ans en France. Mais le plus surprenant, peut-être le miracle le plus étonnant de toute sa vie, c'est la vie de François, c'est sa manière de vivre, c'est ça qui est intéressant. Hein? Au milieu de ses travaux, Saint François de Paule a gardé une grande sérénité d'esprit. Son visage, là, reflétait une espèce de splendeur. On voit ça chez certains saint d'une grande tendresse. On voit ça dans le fond des monastères. Je me souviens d'un frère, le frère Paul, dans un monastère en France. Oh, il était extraordinaire, ce frère convert. Ce regard, ce sourire. On dirait que la lumière se dégageait de sa figure. C'est simplement une illusion. Hein. Mais c'est le sentiment qu'on avait devant lui, tellement la sainteté était évidente. Alors, l'oraison de François de Paule, son esprit de prière, c'est continuel. Rien ne l'empêchait d'être sans cesse uni à Dieu, et d'avoir souvent des extases. Et un jour, deux prêtres, puis un frère, le voient au pied de l'autel majeur, là, du grand autel, environné de lumière. Il a au-dessus de sa tête comme 3 couronnes de gloire. Une autre fois, c'est l'archange Saint-Michel qui lui apparaît. Il lui présente un cartouche. Un cartouche, c'est un ornement sculpté, n'est-ce pas, qui présente une surface plane dans le milieu, et habituellement, on y met des inscriptions. Ben alors, il lui présente un cartouche qui est environné de rayons avec le mot « charité », écrit en lettres d'or, sur un fond bleu. Il lui ordonne de prendre ce signe pour les armes et le blason de tout son ordre. Alors, il faut dire aussi que Saint François de Paule ne fait puis ne donnait rien que par charité. La charité était au cœur de toute sa vie. Il a toujours la charité dans l'esprit, dans le cœur, sur la langue aussi, puis dans les mains. Il ne vit puis n'agit que par charité. Si sa mortification est extrême, s'il couche sur le plancher de sa cellule avec un morceau de bois pour oreiller, il reste que c'était un homme charitable. Il a fait un vœu et une loi dans son ordre d'observer le carême dans toute sa rigueur. Il est le premier à observer cette loi. Il passe une fois le carême entier, 40 jours, sans prendre d'aliments, pour imiter Jésus-Christ qui a passé 40 jours dans le désert sans manger, pour imiter Moïse, Élie, Siméon le stylite, etc. Le vin, d'ailleurs, lui était inconnu. Pauvre lui, le vin, c'est si bon, hein. Et il porte toujours ce qu'on appelle la haire ou le cilice. Et il se flagelle aussi. Et son habit est d'un poil grossier. Et puis, il prend un habit neuf que quand le premier est vraiment usé à la corde. D'ailleurs, c'est lui qui l'a laissé à Paul, près de Naples, en venant en France. C'était l'instrument de nombreux prodiges, dit-on. En tout cas, son autorité a été prodigieuse. La bulle de canonisation a déclaré qu'il ne semblait pas avoir un corps et que c'était plutôt un pur esprit. En tout cas, sa rigueur, oui, contre lui-même, ne retombe pas sur ses religieux. Il a pour eux une douceur puis une tendresse extrême. C'est très important, ça. Puis, il veut rien ajouter aux règles ordinaires de l'observance, quand même. Dans les corrections, il mêle toujours la miséricorde, la justice. Il est bon, il est très bon. Il se fait le serviteur des moindres petits frères. Il rend service à tout le monde. C'est un homme extraordinaire. Et du don de prophétie dont il jouissait, il a prédit 20 ans à l'avance à ses religieux le voyage qu'il va faire en France où il va vivre 25 ans, comme je vous ai dit. Il lit au fond des consciences. Il en découvre les péchés les plus secrets. Et finalement, il mène une vie telle que tout le monde parle de lui d'un bout à l'autre de l'Europe. Alors donc, avec la permission de ses supérieurs, les évêques, François établit de nouveaux couvents dans le sud de l'Italie, en Calabre. Les miracles l'accompagnent partout. Non seulement il guérit les corps, mais il convertit les pécheurs. Il donne à tous de bons conseils. Il va d'un couvent à l'autre pour gouverner ses religieux. Il n'a pas jusqu'à ce moment d'autres règles que les exemples de sa vie, les leçons qu'il leur adresse de vive voix. Et de Calabre, là, sa réputation se répand en Sicile, oui, sur cette grande île au sud de l'Italie. Alors il prend alors la résolution de se rendre dans cette île. Un hôtelier, c'est-à-dire un homme qui conduit une barque là, pour passer de l'Italie à la Sicile, qui s'appelait Pietro Colosso, refuse de le passer par charité. Il lui dit même des injures, parce qu'il n'avait pas les moyens de payer. Alors, sans s'émouvoir, on raconte ça toujours dans la vie de Saint-François de Paul, François fait à Dieu une prière profonde. Puis là, il étend paisiblement son manteau sur l'eau, il monte dessus avec ses deux disciples, et sur cette espèce de barque de nouveau genre, il traverse le détroit qui est très dangereux. Et par humilité, il évite d'aborder au port de Messine, en Sicile. Il atterrit à côté. Là, il rend la vie à un malheureux qui était pendu. Puis, il se rend à Milazzo, où il est reçu comme un ange. En peu de temps, on lui construit un couvent magnifique. Et quand il revient en Calabre, sur la terre ferme, le pape Paul II, qui s'est ému de tous les miracles dont il entend parler, se demande qu'est-ce qui se passe, parce que le bruit s'étend partout en Italie, en Europe. Alors le pape Paul II envoie l'un de ses camériers à l'archevêque de Cosenza pour s'assurer de l'exactitude des faits. Il veut vérifier ça parce qu'il veut pas croire. Ça n'a pas de sens. Alors l'archevêque invite le camérier à faire par lui-même les constatations. Et qu'est-ce qui se passe? Se renouvelle le fameux miracle des charbons ardents. Et François de Paul dit au camérier, « Vous voyez, monseigneur, ce que je fais par la vertu de Dieu. Ne doutez pas que, soutenu de cette puissance de Dieu, on ne puisse supporter la vie les plus austères et les plus grandes rigueurs de la pénitence. » Alors, sur le rapport du camérier, le pape et tous les gens qui entourent le pape se trouvent disposés à accorder toutes sortes de grâces à l'ordre des minimes fondé par François de Paul. En 1471, l'archevêque de Cosenza exempte l'ordre de sa juridiction. Il le met sous la protection immédiate du pape. 2 ans plus tard, le pape Sixte IV, qui a succédé à Paul II,
établit l'ordre sous le nom de ermite de Saint-François. L'abominable pape Alexandre VI, qui a quand même fait de bonnes choses, change ce nom en celui de religieux minime. Il crée supérieur général Saint-François de Paule. Il lui donne ample pouvoir de fonder des maisons dans tout le monde, où il voudra. Et aussi, il lui permet de composer une règle avec des constitutions. Et alors, persécuté par le roi de Naples, Ferdinand Ier, François de Paule répond à tout ça par des bienfaits. Il avertit le prince de Naples d'avoir à protéger ses états, car ils vont être attaqués par les musulmans, les infidèles. Alors, on a vu déjà se réaliser en 1453 sa prédiction de la prise de Constantinople par Mahomet II. Alors, Ferdinand Ier ne croit pas François de Paule, il néglige les avertissements, il ne veut rien croire de tout ça. Mais il doit bientôt ouvrir les yeux lorsque Ahmed Pacha prend et saccage la ville de Trente. Ah, pour assurer le succès de son expédition, le général chargé de reprendre Otrante ou Otrante vient à Palerme se recommander aux prières de François de Paule et demander sa bénédiction. Alors le saint donne l'assurance que la ville sera reprise et les Turcs chassés et que les combattants reviendront sains et saufs. Alors il leur donne pour sauvegarde un cierge béni, puis l'événement confirme la prédiction. Seul, il y a eu le muletier du général, qui s'était moqué d'ailleurs des cierges bénis, qui meurt de la peste. En 1481, Louis XI, roi de France, se trouve affligé d'une grave maladie. Il désire ardemment guérir, il apprend les merveilles qu'opère ce saint ermite de Calabre, alors il veut l'avoir près de lui. Il lui envoie des lettres, nombreuses lettres. Mais finalement, il a recours au roi de Naples lui-même et finalement même au pape Sixte IV. Et là, quand le Saint-François voit que le pape lui demande de partir pour la France, il prend ça pour un ordre. Il dit adieu à ses fils spirituels, il prend le chemin de la France et son passage à Naples et à Salerne est marqué par des miracles. Mais l'humilité de Saint-François ne s'émeut pas des honneurs qu'on lui rend. Et à Rome, c'est Philippe de Comines, le fameux historien, qui nous dit que le pape le reçoit avec beaucoup d'honneur. Il était témoin. Il l'entretient familièrement. Et puis, il veut l'ordonner prêtre. François ne veut pas. Il se contente de demander le pouvoir de bénir des cierges et des chapelets. Car c'est un simple frère. Et ce pouvoir est la source des miracles opérés en France. François de Paule parle au pape du vœu de la vie de carême qu'il veut établir dans son ordre, mais le pape lui fait à ce sujet des difficultés. Le cardinal, neveu du pape, Julien de la Rovere, ou de la Rovere, assiste à l'audience. Très fameux, ce Julien de la Rovere. François le prend par la main, puis il dit au pape, Saint-Père, celui-ci, ce cardinal, fera ce que votre sainteté a tant de peine à exécuter. Et il se trouve annoncé comme ça que Julien de la Rovere va être élu pape, et c'est vrai, il est devenu Jules II. Après avoir reçu la bénédiction du pape, François se dirige vers Ostie et de là vers la France, et à Gênes, il montre du doigt une montagne voisine. Il assure qu'on va y bâtir un couvent de son ordre. Son vaisseau aborde un petit port entre Borme et Brigançon. Et la peste commence à se répandre dans la ville de Borme. On hésite à y laisser entrer François, puis il dit « Ouvrez par charité, ouvrez, Dieu est avec nous ». Et sur cette parole, on la met dans la ville, puis en un moment, sa prière guérit tous les malades qui s'y trouvent. Puis dans la suite, la peste n'a jamais infecté cette localité. Fréjus, où il passe ensuite, vous connaissez Fréjus peut-être, ceux qui sont allés sur la Côte d'Azur, éprouve les effets de sa protection, ainsi que d'autres villes qui sont menacées plus tard par la peste. Et lorsque le roi Louis XI apprend l'arrivée de François dans son royaume, il en éprouve une grande joie. Vous savez, François, je vous ai parlé des miracles de François de Paule, mais c'était connu, je vous le répète, dans toute l'Europe, tout le monde en parlait. Alors le roi veut que le dauphin, le futur Charles VIII, aille à sa rencontre jusqu'à Amboise. Alors là, à Plessis-les-Tours, c'est pour la ville de Tours, là, c'est près de Tours, Plessis-les-Tours, où réside le roi, François est reçu avec l'honneur et la soumission qu'on rendrait au pape lui-même. Il arrive là le 24 avril 1482. Louis XI se jette à ses pieds, le supplie de lui rendre la santé. Alors François de Paule lui dit « La santé et la vie des rois sont entre les mains de Dieu qui a compté tous leurs jours. C'est à lui qu'il faut s'adresser dans la prière. » Deux officiers royaux reçoivent mission donc d'avoir soin de François et de ses religieux, puis de voir tout ce dont ils ont besoin. Ils sont soupçonnés de sa nature et puis ils sont mis en défiance. Hein. Et puis là, le roi tente avec son médecin Jacques Coitier de vérifier qui est ce François finalement. De diverses manières. Ainsi, il va lui envoyer plusieurs présents d'un grand prix, puis des sommes considérables, des nourritures recherchées, des vins à $300, peut-être. Et là, François refuse tout. Il acquiert de la sorte un très grand crédit auprès du roi. Il lui annonce que, ne pouvant guérir, il doit se préparer à la mort. Là, le roi, que cette seule pensée met en colère, reçoit en peu de temps, de minutes, là, tout à coup, il reçoit cet avis, cette annonce, avec un grand calme, une grande soumission d'esprit. Alors là, il demande à François de lui servir de directeur, de le disposer lui-même à la mort, ce que François fait avec beaucoup de soin. Louis XI est muni des sacrements de l'Église, puis il rend son esprit à Dieu le jour même où François de Paule a marqué contre l'avis du médecin, le jour même qu'il avait annoncé, le 4 août 1483. Alors là, François de Paule se conforme aux dernières volontés du roi Louis XI, il assiste le jeune Charles VIII, le nouveau roi. Il obtient par ses prières deux victoires importantes. Puis il organise le mariage de ce jeune roi avec Anne, fille du duc de Bretagne. Alors il se trouve à réunir à la couronne de France la Bretagne, quoi, cette grande province importante de l'ouest de la France. Et là, Charles VIII, de son côté, récompense cet humble François de Paule auquel il donne toute sa confiance et il lui fait bâtir dans son parc le célèbre couvent du Plessis auquel il assigne de grands revenus pour l'entretien des religieux. Il contribue également à la fondation du couvent d'Amboise, du couvent de la Sainte Trinité sur le mont Pincio à Rome où doivent habiter seulement des religieux de nationalité française. Louis XII, lui, agit avec la même bienveillance, la même libéralité. Puis grâce à la faveur de ces trois rois-là, Louis XI, Charles VIII, puis Louis XII, eh bien l'ordre des Minimes, fondé par saint François de Paule, se répand en peu de temps dans plusieurs villes considérables de France. Les grands seigneurs veulent avoir des couvents sur leur domaine. Et là, les progrès de l'ordre sont les mêmes en Italie et en Sicile. Rome, Naples, Gênes, Messine voient s'élever de nouveaux couvents. Il en est de même en Espagne, en Allemagne, par la piété de Ferdinand V et de l'empereur Maximilien Ier. Et ainsi, du vivant même de François, il y a des religieux minimes dans les principaux pays de l'Europe. Plus tard, ils vont s'étendre jusqu'en Amérique, oui, jusqu'en Amérique. Et cet accroissement est dû surtout aux miracles, aux prophéties, à cette vie plus qu'humaine de ce fondateur exceptionnel. Il a une grâce particulière, d'ailleurs, pour obtenir de Dieu la faveur de la maternité aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et aussi pour conserver et rétablir la santé des petits-enfants qu'on leur recommande à ses prières. Les familles royales et princières d'Europe lui sont redevables de toutes sortes de naissances. Et pour les guérisons surnaturelles, il suffit de dire qu'il continue en France ce qu'il a fait en Italie, avec cette différence que pour mieux cacher le don de Dieu, il fait ces guérisons-là par le moyen de cierges et de chapelets bénis qu'il distribue ou envoie aux malades. Les plus notables de ces prophéties sont celles qui donnent naissance au couvent de Malaga en Espagne et de Nijon près de Paris. En l'an 1487, Ferdinand, roi de Castille et d'Aragon, assiège la ville de Malaga occupée par les musulmans, les Maures. François connaît par révélation que ce roi va lever le siège et abandonnera l'entreprise. S'il n'est soutenu et fortifié, alors il lui envoie de Tours en Espagne deux de ses disciples pour lui dire « Ayez bon courage, dans 3 jours, Dieu va vous rendre maître de cette place » et la prophétie se réalise. Le roi Ferdinand, qui songeait à lever le siège, reprend courage, puis 3 jours après, il entre triomphant dans la place. Et en reconnaissance, il fait bâtir l'église de Notre-Dame de la Victoire. Il la donne aux frères minimes de Saint-François de Paul. Et de là, il est venu à ses religions en Espagne le titre de frère de la Victoire. À Paris, 2 docteurs en Sorbonne sont renommés pour leur science puis leur sainteté. Ont détourné l'évêque du projet d'établir des minimes dans son diocèse. Il les trouve trop sévères. Alors, ils sont chargés ensuite d'une mission auprès du roi à Amboise. Ils sont invités à se loger chez les minimes de Plessis-les-Tours. Et François a appris leur arrivée en faisant oraison. Alors, il leur a adressé son invitation par 2 religieux. Il les étonne fort quand, après les avoir rencontrés, il leur parle avec une grande netteté. Des vérité de la foi chrétienne, lui qui est un simple frère. Et surtout quand il termine en disant, jusqu'à ce jour, vous, qui êtes docteur en Sorbonne, vous avez empêché l'établissement de l'ordre près de la capitale du royaume. Désormais, vous allez en être les plus zélés promoteurs. Par vos soins sera fondé près de Paris le couvent de Nijon. Et en effet, la maison avait appartenu aux religieux de Grandmont. Et quand les minimes y se sont installés, ils ont hérité du nom de bons hommes, par lequel on désignait les autres religieux. Et les religieux de Saint-François de Paul avaient ce drôle de surnom en France, les bons hommes. Alors, tout en gouvernant un ordre important, qui faisait beaucoup de ministères, mais François de Paul a toujours conservé ses pratiques d'ermite, sa façon de vivre, sa façon de se coucher par terre, ses prières, ses veilles, ses jeûnes, ses mortifications, sont les mêmes pendant 80 ans. Il a une cellule séparée des autres, une sorte de petit lieu où il a ses visions, où l'on prétend que les anges le visitaient. En tout cas, Dieu se communique à lui. Mais cependant, une partie de sa journée se passe à l'église où il communie, il entend les messes, il assiste aux heures canoniales récitées par les moines. Il médite sur les prières du salut. Il a une dévotion particulière au mystère de la très sainte Trinité, de l'Annonciation et de la Passion de notre Seigneur. Et les noms de Jésus et de Marie sont gravés dans son cœur. Il les prononce à tout instant. Il veut que les églises de ses premiers couvents soient d'ailleurs sous le vocable de l'un de ces noms, ou des 2 ensemble. Il est vraiment dégagé des sens. Il a une grande union à Dieu. Et on l'admirait partout. François, âgé de 91 ans, a depuis 78 ans dit adieu au monde pour marcher vers le ciel dans le chemin de la souffrance et de la vie religieuse. Il a passé 25 ans en France et vers le 15 janvier 1507, il entend pendant la nuit une douce voix qui l'appelle. À partir de ce moment-là, on ne le voit plus sortir de sa cellule de Plessis-les-Tours, là, son beau couvent près de Tours. Il se prépare en priant davantage, en faisant pénitence davantage, il se prépare au passage du temps à l'éternité, le passage de cette nuit qu'est notre vie, belle nuit étoilée quand même, à la splendeur hein, du soleil éblouissant du ciel. Le dimanche des rameaux, oui, le dimanche des rameaux, 28 mars 1507, il ressent la première atteinte du mal qui va l'emporter, c'est une fièvre. Une fièvre qui le prend pour ne plus le quitter jusqu'à sa mort. Alors le jeudi saint, dès le matin, il rassemble tous ses frères. Et assis au milieu d'eux, il leur adresse ses dernières recommandations. Et il insiste spécialement, je vous le rappelle, sur la vertu de charité. C'est ça qui prime chez lui. C'est pas les miracles. C'est pas les phénomènes fantastiques de sa vie. Ce qui prime, c'est toujours la charité, l'amour. Il leur dit, ce petit ordre se maintiendra tant qu'il plaira à la bonté divine de maintenir en paix et concorde cette sainte congrégation et famille. J'espère de la bonté de Dieu vous signifier ce que je désire avant ma mort, qui arrivera dans peu de jours. Alors, comme quelques esprits indécis doutent encore de la possibilité de rester toujours fidèles à cette abstinence perpétuelle, ne pas manger de viande jamais, d'être végétarien totalement, il veut dissiper leurs inquiétudes. Il prend alors encore une fois des charbons ardents dans ses mains. Et il leur dit, en vérité, je vous assure, qu'il n'est pas plus difficile à celui qui aime Dieu d'accomplir ce qu'il lui a promis qu'à moi de tenir ce feu entre mes mains. Alors là, la réunion des moines terminée, un religieux donne le bras à Saint François de Paul, qui est un véritable vieillard épuisé de fatigue. Il le conduit à l'église. François de Paul entend la Sainte Messe, en se mettant lui aussi, comme d'autres saints, une corde au cou. Il a les pieds nus et les mains jointes. Vous savez que les Clarisses, disciples de Saint François, de Sainte Claire, à les pieds nus, il n'y a pas si longtemps, sur la pierre. C'était l'ancienne conception. Conception très sévère, on risquait d'abîmer sa santé, de mourir. Lui, ça ne l'a pas fait mourir rapidement, il est mort à 91 ans. À une époque où il n'y avait pas les médicaments qu'on a aujourd'hui. Et alors donc, au moment de recevoir la Sainte Communion, tous ses traits prennent une expression que rien ne saurait reproduire. C'est un mélange d'amour, d'espérance, d'humilité, de bonheur et de joie. Et là, la messe achevée, il veut rester dans l'église pour y faire son action de grâce pendant que les frères achèvent l'office. Il faut bientôt le reconduire dans sa cellule, car les forces l'abandonnent de plus en plus, et quelques instants après, un frère vient lui demander s'il désire qu'on lui lave les pieds comme c'était la coutume dans l'ordre le jeudi saint. Alors il répond, « Non, non, demain, vous ferez de mon corps ce que vous voudrez. » Et dès le vendredi saint au matin, François, qui connaissait l'heure de sa mort, a fait appeler dans sa cellule tous les religieux. Il leur adresse ses dernières recommandations. Il désigne le frère Bernardin d'Otrante, ou d'Otrante, pour lui succéder jusqu'au prochain chapitre général, et doit insister pour lui faire accepter cet emploi. Il reçoit ensuite le sacrement de l'extrême-onction. Il bénit de sa main défaillante les disciples qui fondent en larmes. Il les congédie pour ne plus les revoir en cette vie, et quelques-uns seulement restent auprès de lui afin de recevoir son dernier soupir et d'être témoins de sa mort. Alors, sentant approcher ces derniers moments, François de Paul se fait réciter les 7 psaumes de la pénitence, les litanies des saints et la passion de notre Seigneur selon saint Jean. On voit ça souvent dans la vie des saints. Il baise affectueusement le crucifix, le serre sur son cœur, prononce ses paroles, « Seigneur, Seigneur, je remets mon âme entre vos mains. » Il ajoute ensuite cette prière. Aimable Jésus, bon pasteur, conservez les justes, justifiez les pécheurs, ayez compassion de tous les fidèles vivants et défunts, soyez-moi favorable, quoique je ne sois qu'un très indigne pécheur. Saint François de Paul baisse la tête, comme dans un doux sommeil, et rend le dernier soupir, c'était le 2 avril 1507. Son corps est exposé pendant plusieurs jours à la vénération des fidèles. Il est inhumé au monastère de Plessis-les-Tours en France. À Tours, quoi. Presque. On doit prendre des précautions pour le préserver de l'humidité. On doit creuser une grosse pierre en forme de tombeau. Et aussitôt après la mort de François de Paul, les fidèles l'invoquent déjà comme un saint. Madame Claude de France, fille unique de Louis XII et d'Anne de Bretagne, est guérie subitement par son intercession. Et la reine accomplit son vœu de coopérer à la canonisation. Le procès est ouvert sans retard, sur sa demande. Et le 7 juillet 1513, Léon X béatifie François de Paul. Le 1er mai 1519, le même pape procède à la canonisation solennelle. En 1562, les calvinistes profanent son tombeau et brûlent le corps jusque-là resté intact. Mais de fervents catholiques parviennent à recueillir quelques ossements. Faut pas en vouloir aux calvinistes, ils croyaient bien faire. Croyaient nous empêcher de trop vénérer les saints pour penser davantage à Jésus-Christ. Ce sont nos frères, les calvinistes, et apprenons à les aimer. En 1565, le roi Charles IX fait réparer le monastère dont les frères Minimes reprennent possession, et plus tard, les reliques seront distribuées à des églises et à des couvents de Minimes. Une première vie de saint François de Paul a été écrite en vieux français par un de ses disciples, et c'est ainsi que j'ai pu aujourd'hui vous raconter la vie de ce grand saint, saint François de Paul, fondateur des Minimes.